Nous allons lire beaucoup de versets pour étayer la pensée que j'aimerais vous partager maintenant. Commençons d'abord dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 à 17, où il est écrit « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Dans ce passage où Paul s'adresse à des frères et sœurs dans la foi, nous nous apercevons qu'il y a à la fois de belles bénédictions et aussi nous devinons que ces croyants traversaient des épreuves. Preuve en est, c'est qu'au verset 17, Paul prie pour que ce Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Donc ça nous parle de l'avenir, après notre existence terrestre. Mais au verset 17, il rajoute qu'il console vos cœurs et vous affermisse. Donc ça, c'est le présent. Donc il y a une consolation éternelle, comme il est dit dans Apocalypse, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Mais au verset 17, aujourd'hui, présentement, nous pouvons être consolés. Mais il est vrai que parfois, durant notre existence, nous passons par des moments de ténèbres, de doutes, d'interrogations, de découragement, voire de dépression, et on se pose la question « Mais pourquoi Dieu a permis qu'il en soit ainsi ? Pourquoi il n'a pas fait autrement ? Et on va même plus loin, pourquoi il a permis que je vive ?» Lorsque nous pensons à la vie de Job, le patriarche, qui, dans la Bible, représente, je dirais, le point culminant de la souffrance. Et à part Jésus-Christ à la croix, on peut se dire que Job a expérimenté des souffrances à nul autre pareil. Il a souffert dans son corps, physiquement, il a vécu le rejet ou l'accusation de la part de ses amis, le rejet de la part de sa femme. Il a perdu tous ses enfants, tous. Il a perdu toutes ses richesses. Bref, il n'a plus aucun espoir alors qu'il est en train là de traverser des ténèbres intenses. Aussi, il dit au chapitre 3 du livre de Job, au verset 11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ?» Là, Job, alors qu'il a tout perdu, se dit « Tout ce que j'ai vécu de ma naissance jusqu'à aujourd'hui » n'a servi à rien puisque j'ai tout perdu. Pourquoi donc Dieu m'a laissé en vie durant toutes ces années ? Et ce qui est sous-entendu là, c'est est-ce que Dieu s'amuse ? Est-ce que Dieu nous teste ? Est-ce que Dieu fait des expériences ? Est-ce que Dieu nous veut du mal ? Est-ce que nous avons fait une erreur quelque part qui ferait qu'on est passé à côté de ce qu'il avait peut-être en réserve pour nous au niveau des bénédictions et du coup on se retrouve sans rien ? Et donc Job se dit mais finalement ma vie est vaine. Et aujourd'hui encore, sans peut-être traverser toutes les souffrances et les expériences que Job vit là dans ce livre, mais on peut des fois se poser la question, alors que on est rempli par toutes ces pensées du monde, parfois on a un emploi du temps très chargé, il y a des fois une forme de solitude aussi que on peut expérimenter, même si on est au milieu de nombreuses personnes, on se pose la question et on se dit mais à quoi sert ma vie ? Est-ce que ma vie sert uniquement à acheter des produits ? Est-ce que ma vie sert uniquement à m'habiller, me lever le matin, aller travailler, partir en vacances de temps en temps ? Bref, on a des fois ce qu'on appelle des questions existentielles et aussi à cause de la souffrance, on a tendance à en vouloir à Dieu, à nous-mêmes, ou en tout cas on s'interroge et on se dit mais à quoi sert cette existence ? Et on pourrait reprendre à notre compte les paroles de Job, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère. Dernièrement, on me parlait du cas d'une jeune fille qui est rentrée à la faculté, mais qui a une maladie qui va l'amener sans doute à mourir plus tôt si les progrès de la médecine ne sont pas probants dans les prochaines années, ou alors si Dieu n'intervient pas miraculeusement. Et donc, cette jeune fille est en train de perdre des aptitudes physiques. Elle est en train de perdre un œil. Parfois, elle ne peut pas être concentrée sur les écrans parce que sa rétine se décolle. Elle est de plus en plus souffrante dans son corps. Elle a du mal à se déplacer. Donc voilà, elle est de plus en plus handicapée. Et elle se dit, mais à quoi sert de faire des études alors que je vais mourir sans doute assez jeune? Et en plus, dans le présent, maintenant, elle souffre énormément dans son corps. Aussi, elle est très souvent découragée, elle a l'impression que sa vie est inutile, et on peut le comprendre, et elle peut aussi, elle, comme Job, se poser la question, mais pourquoi ne suis-je pas morte dans le ventre de ma mère? Et que répondre à cela? C'est vrai que l'humanité ne peut pas répondre à ce genre de questions, alors que même la science ne peut rien faire. Mais pourtant, il faut savoir que dès le ventre de notre mère, Dieu avait un plan pour nous, qui peut paraître parfois étonnant, ou parce que dans le présent, on traverse des périodes tellement difficiles qu'on a du mal à croire qu'il y a un avenir, qu'il y a un espoir pour plus tard. Mais pourtant, souvent, dans la parole de Dieu, il nous est dit que Dieu nous a mis à part dès le ventre de notre mère. Si nous vivons, c'est parce que Dieu a un plan pour notre vie. Un plan qui n'est pas toujours facile, vous savez. Lorsqu'on pense à Jésus-Christ, le plan du Père pour son Fils, c'était pas un plan merveilleux. Bien entendu, il a été utilisé d'une façon glorieuse, il a fait du bien aux autres, il a en plus fait des choses qui plaisaient à son Père. Donc, bien entendu, la vie de Jésus-Christ est extraordinaire. Il avait une manière d'enseigner qui était merveilleuse, il était porteur d'espoir, mais lui-même a vécu la souffrance, lui-même a vécu le rejet, lui-même a pu s'interroger et se dire, mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné, par exemple, lorsqu'il a parlé à son père sur la croix et qu'il a crié là son désespoir? Mais il faut savoir que Dieu a un plan, et ce plan a pour objectif de nous donner le meilleur de façon ultime. En Jérémie chapitre 1 verset 5, il est écrit, alors que Dieu parle au prophète, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est intéressant parce que là, dans ce verset, nous voyons aussi les deux étapes deux temps là qui nous sont donnés, et Job en parle de la même manière. Il est parlé du ventre de la mère et aussi du moment où elle accouche. En Job, il dit « Pourquoi je ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère et n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ?» Et là, dans Jérémie, il est dit « Je t'ai formé dans le ventre de ta mère et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Donc nous voyons là que si Dieu amène ses serviteurs à vivre, c'est parce qu'il a un plan pour leur vie, un plan mystérieux, un plan qui contient, c'est vrai, de la souffrance. On vient d'en parler avec Job, mais Jérémie, c'était la même chose. On dit souvent de ce prophète que c'était le prophète qui pleurait, parce que en plus de tout ce qu'il annonçait, il le voyait se dérouler. On voyait le plan de Dieu se mettre en action, et il a vu la chute de Jérusalem, il a vu les atrocités que le peuple a subies. Et donc, il pouvait se poser des questions en disant, mais pourquoi finalement je suis là pour simplement annoncer des malheurs? Et en réalité, il avait dû conserver cette promesse de la part de Dieu, au chapitre 1, verset 5, c'est qu'il avait été choisi, il avait été mis à part. On voit ça aussi avec Paul, par exemple, en Galates, chapitre 1, verset 15, où il est écrit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Donc Paul a réalisé que le ministère dans lequel il était, la vie chrétienne qu'il avait, qui elle aussi était faite de beaucoup de souffrances, de douleurs, de déceptions, de découragement, mais cette vie-là avait été prévue par Dieu, elle avait été, c'est pas un hasard si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est inattendu, c'est-à-dire que ça fait partie d'un plan encore plus grand, c'est pas simplement factuel ou lié au présent, c'est parce qu'il y a un plan qui est relié à l'éternité. Dieu avait un plan au travers de la vie de Paul. Il il voulait communiquer non seulement une vie à l'apôtre Paul, mais aussi il voulait communiquer une vie qui pouvait être communiquée au travers de l'apôtre Paul. Et donc Paul a pu communiquer cette vie autour de lui. En Romains chapitre 1 verset 1, il écrira « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Donc nous voyons que si Dieu permet l'existence des êtres, c'est parce qu'il a un plan. Le problème, c'est que ce plan, très souvent, comme Jésus l'a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui vivent sur la terre vivent parce que Dieu a un plan pour eux, mais certains ne vont pas y répondre, certains vont passer à côté. Il y a déjà le plan du salut, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à être sauvés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que tous ne répondront pas à l'appel de l'évangile. Mais une fois que nous sommes sauvés, il y a aussi une réponse au plan de Dieu pour les croyants. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour nous. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des prêtres, nous sommes des intercesseurs, nous sommes des ambassadeurs. Nous pouvons communiquer la vérité, vivre la vérité, être des témoins de Jésus-Christ. Alors évidemment, on peut se poser la question et se dire « Oui, mais là, ce sont des personnes particulières qui ont été appelées. C'est Jésus-Christ qui a été appelé, Jérémie a été appelé, Jésus a été appelé, Paul a été appelé. Mais moi, j'ai une vie très ordinaire. Je suis quelqu'un qui est presque transparent. Et non seulement je suis transparent, ma vie n'a pas tellement d'importance. Je ne vois pas pourquoi je suis là. Et en plus de ça, je souffre. » Mais c'est pas ce que Jésus nous enseigne. En Matthieu 10, 42, que dit-il ? Il dit « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. » C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il parle de ses enfants, de ses croyants qui vont accepter le Messie. Et donc Jésus l'a fait une promesse en disant « Ceux qui vont faire du bien au peuple de Dieu auront leur récompense. Il ne faudra pas leur jeter la pierre, il ne faudra pas leur faire du mal. » Mais de façon plus large, on sait que Dieu veut que nous aimions nos ennemis, par exemple, que nous allions au-devant de ceux qui sont peut-être différents de nous, afin de leur communiquer une pensée, une vérité, leur faire du bien. Et Dieu veut tellement communiquer sa bonté qu'il nous demande même de communiquer cette bonté à nos ennemis. Et en Marc 9, 41, il va dire « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » C'est-à-dire que dans ces deux versets, nous voyons là l'importance des petites choses. C'est-à-dire que lorsqu'il dit « seulement un verre d'eau », quand il dit « seulement », le mot « seulement », ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire, parce que quand on a soif, quand il n'y a plus rien à boire, ce « seulement » devient tout. On pourrait nous donner de l'or, de l'argent, on pourrait nous donner des meubles, une habitation, ça ne nous tiendra pas en vie, parce que ce verre d'eau, c'est tout quand on a soif. Et parfois, on a l'impression dans notre vie que ce que nous allons apporter, c'est pas grand-chose, mais soit ça fait partie d'un tout, soit des fois, c'est tout. C'est-à-dire qu'une parole de réconfort, ça peut rassasier quelqu'un qui est dans la détresse. Une prière pour un frère, une prière même pour un voisin, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut faire tellement la différence. Une réaction qui est conforme à la volonté de Dieu peut faire toute la différence. On peut se dire « bah oui, mais c'est seulement ça ». Mais ce « seulement » obtiendra sa récompense, parce que ça fait partie d'un tout. De la même manière, nous avons entre guillemets des grands serviteurs, des personnes qui sont sur le devant de la scène, que l'on admire peut-être, et on se dit « mais voilà, ça c'est une vie chrétienne épanouie, et moi je ne vis pas ça ». La seule chose, c'est qu'on n'est pas appelé à vivre la même chose, mais ça ne veut pas dire pour autant que notre vie n'est pas un tout. Ce que nous sommes a son utilité. Personne peut nous remplacer. On m'a raconté l'histoire il y a quelque temps de certains serviteurs de Dieu qui étaient découragés, des prédicateurs en l'occurrence, et ils se disaient « mais à quoi sert mon ministère puisque maintenant avec Internet, tous les réseaux sociaux, YouTube, toutes les plateformes de vidéos, les gens écoutent des prédicateurs très connus, connus dans le monde entier, qui ont vraiment un ministère particulier ». Et donc ces pasteurs étaient découragés parce que dans leur assemblée, ils voyaient qu'ils n'avaient peut-être pas tellement de prise ou moins de prise qu'avant. Peut-être que c'était d'ailleurs une illusion de l'esprit, ils avaient peut-être tort dans leur manière de voir les choses. Et donc ils se disaient « mais voilà, les gens dans mon assemblée écoutent tellement de grands prédicateurs, de gens plus doués que moi, à quoi ça sert finalement ce que je fais ?» Et une personne leur a dit « mais ce dont les gens ont besoin, c'est de vous. Pourquoi? Parce que ces personnes qui prêchent sur les plateformes vidéo, internet, ne vous connaissent pas. Ce ne sont pas vos bergers. Ils prêchent à beaucoup de personnes anonymes, alors que vous, vous connaissez votre assemblée. Et donc Dieu a besoin de vous. Il n'a pas besoin des autres pasteurs de par le monde pour diriger l'assemblée. C'est de vous dont il a besoin. De la même manière, un époux est là pour son épouse. C'est de lui dont Dieu veut se servir. Les parents sont au bénéfice de leurs enfants. Et donc, ce ne sont pas d'autres personnes que Dieu a choisies. Ce sont ces parents-là. De la même manière, si vous travaillez dans une entreprise, eh bien, votre entourage a besoin de vous. Vous êtes un collègue de travail particulier, un collaborateur, comme on dit aujourd'hui, et c'est vous que Dieu a choisi. Dans une assemblée locale, alors que Dieu forme le corps de Christ et nous sommes reliés les uns aux autres, et ben c'est chacun d'entre nous dont Dieu a besoin. C'est pas une personne qui est à l'autre bout du pays. Et ça, il faut le prendre en compte dans la vision que nous devons avoir de notre propre existence. Si Dieu nous a laissé en vie, s'il n'a pas permis que l'on meure dans le ventre de notre mère, s'il n'a pas permis que nous mourions au moment de l'accouchement, c'est parce que Dieu avait un plan. Alors évidemment, on est parfois malade, on est parfois souffrant, et c'est vrai, et nous avons pour ça un Dieu de consolation qui est disponible pour nous, mais si nous voulons le chercher. Il est important de croire par la foi que le plan de Dieu est parfait dans sa globalité, et que nous, nous en faisons partie, et donc le plan de Dieu est parfait pour notre vie. Vous savez, si Dieu nous a laissé en vie, Jérémie 29, 11, il écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si nous avons besoin d'un avenir et d'une espérance, ça signifie que le présent n'est pas toujours parfait et que parfois nous traversons le désespoir. Mais Dieu a formé des projets de paix et non de malheur. Nous avons un avenir. En Romains 8, 30, Paul écrit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Notre espérance, elle est là. Nous sommes glorifiés dans la pensée de Dieu, et un jour nous allons expérimenter cette glorification. Notre corps ne souffrira plus, nos pensées seront saines, le péché ne sera plus là. Lorsque nous le verrons, nous serons comme lui. Et si nous revenons maintenant au texte de départ en 2 Thessaloniciens, du coup on peut comprendre ce que Paul voulait écrire lorsqu'il dit à partir du verset 13 « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Pourquoi ? Pour le salut. Comment ? Par la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire que Dieu nous a mis à part. Tout comme il avait mis à part Jérémie, tout comme il avait mis à part Moïse, Paul et tant d'autres, Dieu nous a mis à part par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, c'est-à-dire qu'il nous a communiqué ses pensées au travers de la parole de Dieu, de la doctrine. Et donc au verset 14, il est écrit « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile ?» pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on pense à la vie de Job, alors ce ne sera pas toujours le cas, hein, en fonction de la destinée que Dieu nous propose, mais s'agissant de Job, il a vécu l'espérance ensuite, il a vécu des bénédictions, Dieu lui a même rendu au double, mais nous dans l'éternité, ce sera peut-être au centuple, je ne sais pas, mais en tous les cas, notre vie a un sens, et c'est Dieu qui lui a donné ce sens. Ainsi donc, au verset 15, « Soyons encouragés, comme il est écrit, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » L'enseignement que nous avons reçu durant des années, gardons ces enseignements dans notre cœur, gardons ces instructions, continuons de marcher par la foi, croyons la parole de Dieu, croyons dans l'espérance qui nous est offerte. Ne vivons pas uniquement au travers des expériences présentes. Marchons par la foi, prenons possession du pays qui est le nôtre, un pays éternel, des bénédictions éternelles, un amour éternel, un plan éternel. Et donc, verset 16, « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance » console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. peu importe les situations, pratiquons les bonnes œuvres et communiquons de bonnes paroles, et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Dieu nous a choisis pour faire ses œuvres et pour prononcer ses paroles. Il nous a mis à part et personne ne peut nous remplacer, et c'est ainsi que nous allons bénir ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse.